France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Elle s'impose dans notre pays comme le premier marché de produits stupéfiants. La cocaïne est même devenue la deuxième drogue la plus consommée derrière le cannabis. Elle est en plein essor avant tout car sa production est en hausse, que ses prix baissent et que sa pureté augmente. Et les consommateurs ont un niveau de connaissance insuffisant sur les risques qu'ils prennent. Quels sont ces risques? Comment arrêter? Comment protéger les jeunes? Une question que nous poserons aussi concernant le protoxyde d'azote, substance à l'origine de nombreux drames. Certains voudraient la classer comme stupéfiant. Est-ce une bonne idée? Réponse dans quelques instants avec notre invité qui, à quelques jours de la nouvelle année, fera le point sur le janvier sobre qui démarre pour la 7e année dans notre pays. Bernard Basset, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président d'honneur de l'association Addiction France, médecin spécialiste en santé publique. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles quand même, puisqu'il y en a. Selon les données de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies de juin 2025, les Français boivent de moins en moins. La part de consommateurs quotidiens est tombée de 24% à 7% entre 92 et 2023. Et la consommation moyenne annuelle d'alcool pur par habitant de plus de 15 ans est passée de 26 litres en 1961 à 10 litres et demi en 2021, ce qui est quand même spectaculaire. On explique ça comment?
On explique ça comment? Par plusieurs facteurs. Il y a d'abord une prise de conscience des risques. On a fait, nous les acteurs de santé publique, une pédagogie inlassable qui finit par porter ses fruits. Et puis aussi, je dirais qu'il y a la sociologie du travail. La plupart des métiers aujourd'hui sont incompatibles avec la consommation d'alcool qui exige, les métiers exigent concentration, attention, précision. Le travail sur écran en particulier peu compatible avec la consommation d'alcool. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur cette baisse de consommation d'alcool. Et puis il faut reconnaître que la consommation régulière, c'était celle des anciennes générations qui buvaient du vin à tous les repas. C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Alors pourtant, c'est pas toujours simple d'être sobre et même modéré, notamment lors des réveillons. Est-ce que vraiment le regard de la société a changé ou est-ce qu'on a encore tendance à dire que ceux qui ne vont pas boire pendant le réveillon sont quand même des gens tristes?
Non, le regard a changé. C'est beaucoup mieux accepté de ne pas boire d'alcool dans les réunions amicales, festives, amoureuses ou dans des réunions assez rituelles comme le réveillon. Aujourd'hui, les gens qui ne boivent pas d'alcool sont beaucoup mieux acceptés et souvent sur la table il y a des boissons sans alcool. Alors on peut en apporter soi-même, mais la plupart du temps maintenant, on offre des boissons sans alcool au même titre que les boissons alcoolisées. C'est plus du tout une obligation, c'est plus du tout une norme comme ça l'a été longtemps.
Et des boissons sans alcool festifs, parce que c'est sûr que c'est plus drôle que d'être à l'eau alors que les autres, effectivement, boivent de l'alcool. Donc il faut y penser quand on reçoit, c'est toujours une bonne idée. Le lendemain du réveillon débute ce qu'on appelait le Dry January, qui existe depuis 2013 au Royaume-Uni, depuis 2019 dans notre pays, appelé chez nous le défi de janvier. On a des chiffres sur la façon dont il est suivi?
Oui, on a des chiffres, il y a des études scientifiques, il y avait en particulier une étude qui a été faite par l'équipe du professeur Roland à l'hôpital du Vinatier à Lyon, qui montrait que il y avait à peu près 4 millions et demi de personnes qui avaient fait peu ou prou le défi de janvier l'année dernière. Alors c'est énorme, évidemment, puisque c'est une opération qui est portée par les associations sans moyens, simplement avec leur pouvoir de conviction, avec leur présence sur les réseaux sociaux. Et on voit bien justement cette appréciation du risque lié à la consommation d'alcool qui fait que cette opération est populaire alors qu'elle est volontariste, elle n'est pas du tout moraliste, elle s'adresse à tous et chacun la relève à sa manière. Mais c'est aussi une façon d'évaluer son rapport avec l'alcool, de voir si toutes les occasions de boire doivent être honorées. C'est l'évaluation de la présence de l'alcool dans notre vie à tous. Et le fait de s'interroger pendant un mois sur sa consommation d'alcool, ça a évidemment des effets bénéfiques parce que après le mois de janvier, ceux qui ont relevé le défi boivent moins. Et donc diminue les risques à la consommation. Et on sait évidemment les dommages liés à la consommation d'alcool, aussi bien en termes de mortalité que de maladie, et puis aussi de violence, on ne dira jamais assez.
On a des chiffres d'intention pour cette année?
Alors, on a des chiffres, évidemment, pour cette année. Il y a eu un sondage qui a été fait par l'Institut Harris Interactive qui montre que 50% de la population adulte serait prête à relever le défi de janvier. Alors, c'est énorme. Je ne pense pas que ces 50% vont tous relever le défi de janvier, mais ça prouve que 50% des gens, la population adulte, se posent des questions sur son rapport avec l'alcool. Et ça, c'est plutôt une bonne chose.
Alors ça, c'est le chapitre des bonnes nouvelles, même s'il y en a d'autres, on y viendra. On passe aux moins bonnes nouvelles, comme la hausse de la consommation de la cocaïne. Une étude qui a été publiée le 8 décembre dernier par l'Office français des tendances addictives montre l'essor des drogues stimulantes, au sens large du terme incluant la cocaïne et les drogues de synthèse. Aujourd'hui, donc, le chiffre d'affaires de la cocaïne a dépassé celui du cannabis. La cocaïne est devenue la deuxième drogue la plus consommée derrière le cannabis. Alors, pour expliquer cette hausse, il y a la production qui explose, deux fois plus de production en 2024 qu'en 2020, mais il y a aussi l'accessibilité de ce produit et le prix qui ont changé vraiment.
Oui, il y a l'accessibilité, mais il faut aussi tenir compte du fait que les narcotrafiquants ont des stratégies globales de promotion de leurs produits, on l'a vu, puisque aujourd'hui la cocaïne est présente dans toutes les villes de France, qu'elles soient grandes ou petites. Elle est présente dans toutes les couches sociales. Auparavant, c'était un marqueur social, c'était, je dirais, des professions un peu bling-bling, c'était les médias, c'était les traders, etc. Aujourd'hui, tout le monde consomme plus ou moins de la cocaïne dans toutes les couches sociales. On l'a vu aussi employé dans des métiers qui l'utilisent pour tenir, par exemple, les métiers du bâtiment, les marins-pêcheurs. Et ça, évidemment, c'est assez nouveau.
Et l'utilisation des réseaux sociaux pour s'en procurer, ça change la donne ?
Oui, l'utilisation des réseaux sociaux change énormément la donne parce que on peut se faire livrer à domicile, donc quasiment sans risque. On commande sur Internet et évidemment, c'est l'accessibilité du produit qui est augmentée.
Alors, on a tendance à penser que cette drogue provoque peu d'addiction. Qu'en est-il exactement de l'addiction à la cocaïne ?
Ben, l'addiction à la cocaïne, elle touche à peu près un consommateur sur 5, 17-18% selon l'OFDT. Elle se traduit par, des troubles psychologiques importants. Évidemment, l'obligation de consommer, c'est le propre de l'addiction. Et cette obligation de consommer, de renouveler sa consommation, procure à la fois un plaisir immédiat, mais aussi surtout des dommages et des troubles psychiques qui sont de plus en plus importants. Dépression, paranoïa, difficulté à s'insérer dans la vie sociale. C'est une drogue qui est quand même extrêmement à la fois addictive et dangereuse pour ceux qui la consomment. L'addiction s'installe en général en quelques semaines, mais elle peut être plus rapide.
Et les polyconsommations, en plus, notamment avec l'alcool, sont très fréquentes. Ça augmente encore le risque.
Oui, alors, c'est la tendance générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne consomme pas une drogue, on consomme des drogues, et on les consomme, toutes ensemble, successivement. C'est donc, un accroissement des risques, parce qu'on potentialise les risques de chaque drogue en les consommant ensemble.
Alors, il n'y a pas de produit de substitution à la cocaïne, à la différence de l'héroïne. Ceux qui veulent, qui sentent effectivement que ça dérape, qui veulent arrêter, ils se tournent vers qui ? Comment on fait ?
Alors, ils doivent se tourner, évidemment, vers des services d'addictologie, des équipes d'addictologie qui les aident, à la fois avec des moyens médicamenteux, mais aussi une assistance psychologique qui est très importante pour s'en sortir, puisqu'il n'y a pas de produit de substitution, comme vous venez de le rappeler. Et d'autre part, souvent, il y a une désinsertion sociale. Et les équipes d'addictologie, évidemment, aident les personnes à retrouver une vie et des relations sociales normales, le plus normales possible, peu à peu, pour se désengager de l'addiction à la cocaïne.
Cette désinsertion sociale, c'est un moyen de repérer éventuellement pour les parents un enfant addict, parce qu'on sait que du fait que cette drogue est sniffée, en fait c'est de la poudre qui est le plus souvent sniffée, ça devient un mode de consommation préféré des jeunes finalement, qui trouvent que la fumée du cannabis c'est un peu ringard et qui se tournent beaucoup aujourd'hui vers la cocaïne.
Oui, il y a indiscutablement un effet de mode, les vieilles drogues, alcool, tabac, cannabis, qu'elles soient licites ou illicites, sont moins attractives. La cocaïne, évidemment, par ses effets immédiats, importants, attire les jeunes. Alors, vous avez raison de souligner que la désinsertion sociale, parfois le décrochage scolaire, sont des signes d'alerte pour l'entourage, en particulier évidemment pour les parents. C'est le propre de l'addiction de prendre la place peu à peu de toutes les occupations de la vie. Elle s'impose, elle rythme, elle donne le rythme à la vie quotidienne. Et donc, ça se fait au détriment, évidemment, des autres activités professionnelles, scolaires, ou de loisirs, ou de relations amicales ou amoureuses. Il y a un repliement sur soi au bénéfice de l'addiction à la drogue, si j'ose dire.
Alors, parlons politique sur ce sujet. La lutte contre ce narcotrafic qui est à l'origine de nombreux morts dans notre pays est à l'origine d'une campagne de communication lancée par le ministère de l'Intérieur qui souhaite, je cite, responsabiliser les consommateurs avec ce message « Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez ». Emmanuel Macron a récemment affirmé, je le cite toujours, « Acheter de la cocaïne, c'est de fait être complice et donner du financement à des réseaux de criminalité organisée ». Est-ce que pour vous, c'est un message efficace ? Est-ce que c'est les consommateurs qu'il faut combattre ?
Non, il faut combattre en priorité les narcotrafiquants qui sont des gens sans pitié et qui se font de l'argent sur la faiblesse des consommateurs. Il faut pas oublier, on l'a évoqué tout à l'heure, que la plupart des consommateurs, en tout cas une bonne partie des consommateurs, sont addicts, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent plus leur consommation. Donc ils ne sont pas accessibles à un discours moral ou moraliste. Ils sont dépendants.
Ils sont malades.
Pardon ?
Ils sont malades. C'est une vraie maladie.
Ils sont malades. Ils sont malades, ils ont besoin de soins, ils n'ont pas besoin de morale. D'autre part, je veux dire, le discours moraliste, il est difficile à tenir quand l'émetteur lui-même n'est pas crédible. Alors, on peut le regretter, mais je veux dire, aujourd'hui, la classe politique suscite la défiance d'une partie de l'opinion, et en particulier des jeunes qui, par définition, sont plus rebelles que les autres. Et donc, le discours moraliste, il accroche pas. Alors, il faut en tenir compte, je veux dire, avoir une approche pragmatique, aider les gens, les aider dans la durée, faire de l'information dans la durée pour éviter que les gens ne tombent dans la consommation et dans l'addiction éventuelle. Et c'est ça la bonne manière d'agir, c'est pas de faire la morale.
Encore une question sur la cocaïne après l'assassinat récent à Marseille du frère d'un militant associatif contre l'emprise du narcotrafic dans la ville. Le président de la République a convoqué en urgence une réunion contre le narcotrafic, c'était le 18 novembre dernier. Les professionnels de santé n'y étaient pas conviés, est-ce que ça aurait été bien de les convier ?
Oui, ça aurait été, je dirais, nécessaire, sinon indispensable. On l'a vu, il y a un volet évidemment tout à fait légitime de lutter contre les trafics, contre le banditisme, contre les trafiquants qui profitent de la faiblesse des gens. Mais il y a aussi l'autre volet qui est nécessaire, c'est d'aider les gens, de les informer aussi, pour éviter qu'ils ne consomment des produits dangereux et pour ceux qui sont addicts, évidemment, de les aider à sortir de leur addiction. Et ça, je veux dire, c'est le rôle des addictologues, c'est le rôle des professionnels de santé publique, c'est le rôle des acteurs de terrain, qu'ils soient éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues. Et c'est dommage que la politique, à chaque fois, tombe dans le spectaculaire et pas dans l'action de fond.
Autre fait divers dramatique, le 1er novembre, un jeune homme de 19 ans a été tué à Lille par un conducteur qui avait consommé du protoxyde d'azote et qui tentait de fuir la police. Mercredi 3 décembre dernier, trois jeunes de 14, 15 et 19 ans sont morts noyés après que leur voiture ou plusieurs bouteilles de ce gaz hilarant ont été retrouvées à rater un virage et fini sa course dans la piscine d'un pavillon à Alès. Depuis 2020, les signalements d'intoxication liés à l'usage détourné de ce protoxyde d'azote sont en hausse continue. Il s'installe aujourd'hui largement dans le marché des addictions. Il touche 5 à 7% des adolescents et jeunes adultes. On rappelle déjà que ce produit a été détourné de son usage premier.
Oui, il a été détourné de son usage premier. Alors, l'usage lointain, c'était un anesthésique, en particulier pour la dentisterie. Mais plus récemment, c'était un produit commercial qui servait à faire de la crème chantilly, simplement. Alors, il a été détourné, on bricole les cartouches et on aspire le gaz dans un ballon et ça produit un effet immédiat. Alors vraiment immédiat, c'est-à-dire qui dure quelques minutes maximum et qui produit ces manifestations de rire incoercible, etc. Mais plus ça peut être plus grave d'emblée, c'est-à-dire on peut perdre connaissance et avoir évidemment les effets d'une perte de connaissance, du genre fracture, etc. Mais si on renouvelle, parce qu'on a l'impression que c'est drôle, que c'est rigolo pour soi-même et pour l'entourage, on a une action au niveau du cerveau qui peut être beaucoup plus importante. Et peu à peu, on peut avoir des dommages.
On va en parler. Je voudrais juste qu'avant que vous continuiez, on écoute un témoignage. Nawel, qui a 30 ans, qui a commencé la consommation de protoxyde d'azote lors d'une soirée avec des amis. Très vite, ça a dérapé. Elle témoigne sur France Info. Écoutez-la.
C'est euphorisant, ça fait planer. Genre, on est déconnecté, on est dans un autre monde. Et ben après, je suis tombée vraiment accro. Il m'arrivait de me réveiller et il fallait absolument que je prenne mes ballons. C'est pas des ballons, c'était des bonbonnes. Par jour, il m'arrivait des 5-6 bonbonnes. J'en avais besoin. Alors au début, j'ai commencé à avoir des picotements au niveau des mains et au niveau des pieds. Ensuite, j'ai commencé à perdre le toucher. Je sentais plus ni mes jambes, ni mon ventre, ni mes bras, rien. Je me levais, mais je tenais pas debout. Je tombais.
Paraplégique.
Exactement. Ouais. Je pensais que j'allais y rester. Mais oui, j'aurais pu y rester.
Voilà, effectivement, des conséquences qui peuvent être graves, notamment parce que ce gaz interfère avec le métabolisme d'une vitamine, c'est ça, la vitamine B12 ?
Oui, c'est la vitamine B12 qui est essentielle à la constitution, je dirais, du système nerveux pour aller rapidement. Donc, ça peut intervenir sur les nerfs qui sont issus de la moelle épinière. Et ce que décrit Nawel, c'est justement les conséquences. C'est-à-dire, les nerfs ne marchent plus, on est paraplégique, on est paralysé, Et évidemment, ça peut avoir des conséquences graves à long terme. C'est très difficile de récupérer. Alors on voit ces paraplégies, ces atteintes du système nerveux de plus en plus fréquemment aux urgences, avec des conséquences évidemment à terme importantes.
Alors aujourd'hui, ce protoxyde est en vente libre. Il est disponible pour tout le monde de manière simple, légale ?
Non, alors il est interdit à la vente aux mineurs. Ça a été la réaction du législateur et des politiques de protéger les mineurs. Cependant, on peut s'en procurer comme beaucoup de produits aujourd'hui sur Internet. Il est importé du Benelux, essentiellement de Belgique et de Hollande, sous forme de grosses bonbonnes. Et puis, évidemment, il est disponible par des circuits plus ou moins officiels. D'autre part, on voit aussi que pour attirer les jeunes, et ça c'est particulièrement cynique, le protoxyde d'azote peut être parfumé à la fraise, c'est un gros classique. On a parfumé les puffs, les puffs c'était pour vapoter, pour entraîner les jeunes dans le vapotage. On a sucré les alcools pour entraîner les jeunes dans la consommation d'alcool. Et là, c'est la même logique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire on parfume le protoxyde d'azote pour le rendre plus attractif pour les jeunes qui sont sensibles aux produits sucrés. Donc c'est particulièrement cynique. Évidemment, c'est difficile de lutter contre des trafics qui sont plus ou moins officiels.
Alors justement, récemment, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a confirmé que le gouvernement travaillait à un encadrement strict de cette substance et il a aussi dit souhaiter que ce protoxyde d'azote soit inscrit sur la liste des produits stupéfiants. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ?
Alors, c'est une idée qu'il faut discuter parce que la prohibition, en général, n'est jamais une solution. Quand on prohibe un produit, on crée immédiatement du marché noir. Et le marché noir, ça tombe non plus sur des fabricants officiels sur lesquels on peut avoir, les États peuvent avoir des moyens de pression, mais ça tombe sur, évidemment, des bandits, des mafieux. Donc, Je crois que la prohibition, qui paraît une idée simple comme ça et efficace, souvent a des effets très pervers. On le sait par l'histoire, hein, la prohibition de l'alcool a entraîné la mafia aux États-Unis dans les années 30. Je crois qu'il faut être prudent dans cette solution simpliste qui peut avoir des effets adverses.
Est-ce que ça risque aussi d'éloigner éventuellement les consommateurs des dispositifs de soins, le fait que ça soit un stupéfiant ?
Oui, toujours, parce que les gens qui utilisent des produits interdits ont toujours du mal à se confier sur leur consommation. Ils ont un peu honte, ils se demandent s'ils vont pas tomber sous le coup de la loi, et donc ils hésitent à consulter les professionnels du soin. Alors c'est ce qui peut se produire hein, pour le protoxyde d'azote s'il est interdit.
Alors, c'est quoi les solutions pour protéger les jeunes de ce produit dont on dit qu'effectivement, ils les consomment de plus en plus ? C'est l'information, c'est quoi ?
Alors, il y a l'information, hein, l'information qui doit être massive. C'est évidemment le relais par les médias. On voit bien qu'il y a des dangers graves. Hein. On le voit en accidentologie sur la route. On le voit avec les gens qui se présentent aux urgences avec des troubles déficitaires majeurs. Et puis, c'est l'éducation à l'école sur l'ensemble des drogues. C'est renforcer les capacités à discerner ce qui est favorable et pas favorable. C'est renforcer la capacité à dire non quand on présente des produits dangereux. Et tout ça, évidemment, c'est une œuvre de longue haleine où on doit tous s'atteler.
Vous parliez d'accidentologie. On sait repérer aujourd'hui le protoxyde d'azote. Il est détectable comme l'alcool ou le cannabis ?
Ah non, évidemment, il n'est pas détectable. On en voit les effets. Mais on sait surtout l'histoire de l'accident et l'histoire des consommations relatées par les consommateurs qui nous informent.
On va revenir dans quelques instants sur une bonne nouvelle, parce qu'on terminera l'année avec une bonne nouvelle, c'est agréable. Mais pour l'instant, la chronique recherche avec science, toute la semaine, Alexandra Delbos s'est intéressée à la santé des femmes et comment la médecine tente de réparer ses biais. Dernier épisode sur les intelligences artificielles dans le monde médical.
Carnet de santé.
Comment la médecine répare-t-elle ses biais avec aujourd'hui créer des intelligences artificielles sans biais ? L'IA a déjà largement fait son entrée dans le monde de la santé, notamment dans l'imagerie médicale. Selon une récente étude française de juillet dernier, 80% des radiologues interrogés utilisent l'IA pour améliorer la qualité des images ou détecter des pathologies. Mais l'intelligence artificielle ne se limite pas aux radios et aux IRM, elle peut aussi aider à analyser des données, à interpréter des informations médicales ou encore à améliorer les performances chirurgicales. En fait, parce que l'IA est un outil, elle a forcément vocation à entrer de plus en plus dans la vie des médecins, mais l'intelligence artificielle ne serait-elle pas nécessairement biaisée ? Ariel Guerra-Adames est doctorant en informatique médicale au BPH, le Bordeaux Population Health, de l'INSERM, de l'INRIA et de l'Université de Bordeaux.
Bien sûr, les données d'entraînement reflètent les biais de notre société. Donc l'IA, elle n'est pas magique, elle apprend à partir des données historiques. Dans le cas de l'IA médicale, ce sont des dossiers médicaux, par exemple, des décisions passées, de tout ce qui alimente les bases d'entraînement des IA médicales, peut contenir déjà les préjugés inconscients des humains. Ce qui est logique. Pour vous donner une illustration, puisqu'on parlait de la santé des femmes, dans la présence des femmes dans les essais cliniques, si pendant des décennies, la recherche médicale a traité le corps masculin comme la référence, ces biais seront encodés dans les données historiques qui peuvent ensuite être utilisées pour entraîner des IA. Donc, une deuxième raison que je peux penser pourquoi les IA sont biaisées, les algorithmes d'optimisation peuvent amplifier les schémas majoritaires. Donc, quand on entraîne des algorithmes d'IA, ils vont chercher les patterns les plus fréquents. Donc, souvent, ce sont les patterns les plus simplistes. Donc, l'IA, elle ne reproduit pas seulement les biais, mais elle peut aussi aller jusqu'à les amplifier en gravitant vers ce qui est le plus courant dans les données.
Autrement dit, l'IA n'invente rien. Tous les biais que nous avons évoqués cette semaine, la sous-représentation des femmes dans les essais cliniques, le moins bon diagnostic des maladies cardiovasculaires, la sous-estimation de la douleur, tout ça se retrouve mécaniquement dans les données et sont ensuite amplifiés par la nature même des algorithmes. Il existe un exemple frappant, c'est c'est celui de Gemma, l'IA générative de Google. Un chercheur lui a demandé de résumer des dossiers médicaux strictement identiques en ne changeant que le genre du patient. Pour un homme, l'IA évoque un cas médical complexe nécessitant des soins intensifs. Et pour une femme, l'algorithme s'attache plutôt à la psychologie, au bien-être général et au contexte social, comme si la gravité des symptômes n'était pas la même. Mais alors, quel est le risque si ces biais existent déjà chez nous, les humains? Le problème, c'est l'effet d'échelle. Un médecin biaisé affecte quelques patients, alors qu'une IA déployée à grande échelle peut influencer tout un système de soins avec des milliers de personnes. Mais l'intelligence artificielle, nous l'avons dit, reste avant tout un outil. Dans cette étude parue dans Proceedings of Machine Learning Research, et dont ce chercheur est le premier auteur, l'intelligence artificielle permet de détecter et quantifier des biais cachés des humains sur le tri des patients et patientes aux urgences, comme si l'IA nous tendait un miroir.
Nous avons entraîné un modèle d'IA générative sur plus de 150 000 visites aux urgences du CHU de Bordeaux entre 2016 et 2021. Et en faisant ça, l'IA a appris à reproduire les décisions de triage des infirmiers et des infirmières qui consistent à attribuer un niveau d'urgence de 1 à 5. Donc, ensuite, nous avons utilisé une technique appelée testing contrefactuel ou testing discriminatoire. On va simplement prendre un dossier patient et on va inverser uniquement les marqueurs de sexe ou genre et on regarde si la priorité affectée au patient va changer. C'est un peu comme les études qui visent à quantifier les inégalités dans l'embauche ou l'accès au logement, qui prennent des dossiers des candidats fictifs et qui changent les attributs comme le prénom ou l'âge pour observer des différences dans la prise de décision. Donc, à présentation clinique identique, les femmes ont environ 2,1% des chances supplémentaires de recevoir un score de triage moins sévère que les hommes. À l'échelle nationale, ce différentiel des 2,1% correspondrait à environ 220 000 attributions de triage moins sévères pour les femmes chaque année en France.
2,1%, ça ne paraît être rien. Et pourtant, ces différences ne concernent pas les cas les plus critiques, mais les soins dits intermédiaires, précisément là où il y a le plus de doutes et où les biais prennent le plus de place. Dans cet exemple, l'IA n'est pas le problème, mais une solution. Elle devient un outil pédagogique, notamment à destination des soignants et soignantes, mais aussi de nous tous. Elle nous tend finalement ce miroir. Elle nous montre que pour soigner sans biais avec des machines, il faut apprendre à soigner sans biais entre humains et donc créer des intelligences artificielles. Si elle plus juste passe par la réparation des biais de la médecine.
Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques d'Alexandra Delbo sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Docteur Basset, pour finir avec une bonne nouvelle, parce que la nouvelle année arrive et que ça fait quand même du bien, dans les derniers chiffres que l'on a, on a quand même une bonne nouvelle sur la consommation de tabac en France.
Oui, c'est une excellente nouvelle. On est descendu en dessous de 20% de fumeurs. C'est un effondrement de la consommation de tabac. On peut dire qu'on est sur la bonne voie pour se débarrasser du tabac. C'est la principale drogue mortelle, hein. Plus de 75 000 morts par an. Donc le fait qu'on consomme moins de tabac, c'est une bonne nouvelle pour tous.
Ça concerne les adultes, mais les jeunes aussi ou pas?
Alors ça concerne les jeunes et ça renforce la bonne nouvelle parce que les jeunes fument encore moins. Ils sont moins attirés par le tabac que les générations précédentes. Et c'est vrai aussi pour l'alcool et le cannabis. Donc c'est une triple bonne nouvelle.
Il persiste quand même des inégalités sociales ou pas dans ces domaines ?
Oui, il y a toujours des inégalités sociales, en particulier, évidemment, plus on est en bas de l'échelle sociale, plus on consomme du tabac. C'est dû au fait que quand on est en bas de l'échelle sociale, on a des préoccupations immédiates et moins de préoccupations à long terme. On a moins de facilité à se projeter dans l'avenir et à se préoccuper de sa santé.
Merci en tout cas pour avoir commenté tous ces chiffres et apporté quand même de l'espoir et puis encore la nécessité de travailler énormément pour vous et tous ceux qui travaillent avec vous. Merci infiniment, docteur Basset. Je voulais souhaiter évidemment... Une excellente année 2026 à tous, puisque je ne vous retrouve que le 3 janvier. Donc surtout du bonheur, de la santé, de la paix. Enfin, il y a tellement de choses à souhaiter. Mais en tout cas, je vous l'espère profondément. Merci beaucoup à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Julien Moulet qui l'a réalisée et mise en ondes.